Partout à travers le monde, des peuples étaient nés, des cultures, des savoirs, des langues, des histoires. S'entremêlant sur Terre, ils apprirent à échanger. Des cultures, des savoirs, des langues, des histoires. Et un jour, des quatre coins du globe, tous nourris de la même volonté de vivre bien, ils se rassemblèrent pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre, pour mieux œuvrer ensemble. Ils se rassemblèrent en un lieu que l'on nomma l'hymne international.
For the world, ha-ha, for the world, ha-ha, for the world, ha-ha, ha-ha, for the world, ha-ha.
Ce mois-ci, nous allons découvrir le Bangladesh. Le Bangladesh. La capitale du Bangladesh est Dhaka. Ses frontières, du nord, de l'ouest et de l'est, sont aussi celles de l'Inde. Et sur sa pointe tout à l'est, le Bangladesh est voisin de la Birmanie. Le pays est situé sur le delta du Gange. On appelle ceci un delta car les nombreux bras du fleuve le Gange reliés à d'autres cours d'eau forment dans cette région un triangle. C'est une référence à la lettre grecque delta représentée par un triangle. Le territoire est très fertile. Depuis longtemps, on y trouve des cultures de riz et de thé. Au sud, le pays s'étend sur le golfe du Bengale, au nord de l'océan Indien. S'y trouve la plage la plus longue du monde, 120 km de long. Reste que la majeure partie de sa côte maritime est une jungle marécageuse. Et là aussi, c'est un record mondial. Cette jungle marécageuse est la plus grande forêt de mangroves du monde. Une mangrove est un écosystème de marais maritimes peuplé d'une faune et d'une flore très spécifiques, adaptées à l'eau douce, à l'eau salée et aux marais. Regroupés en îlots, des arbres aux troncs étroits et aux racines épaisses et biscornues dépassant du sol s'agrippent à la terre et débordent sur des miroirs d'eau. Il y a aussi des palmiers et des fougères, au milieu desquels se baladent lézards, tortues et crocodiles, et bien sûr, le fameux tigre du Bengale. C'est aussi dans cette région que se trouve le plus petit ours du monde. Troisième record mondial, on l'appelle l'ours du soleil. Il ne mesure pas plus d'1,50 m dressé sur ses pieds, à peine plus grand que les grands calaos. Ces grands oiseaux jaunes et noirs que l'on peut croiser accrochés aux arbres, dont le long bec incurvé est surmonté d'un casque jaune vif en forme de U. Dans ce pays, le climat y est difficile pour les humains, car chaque année reviennent les moussons, des pluies diluviennes qui durent plusieurs mois et provoquent des inondations importantes, et régulièrement arrivent des cyclones et des raz-de-marée. Avant de vous parler de l'histoire du Bangladesh, il faut préciser que cette appellation est récente. Avant, le Bangladesh s'appelait le Bengale, ou encore l'Empire du Bengale, et pendant très longtemps, le Bangladesh a fait partie de l'Empire moghol, qui comprenait une partie de l'Iran, le Pakistan et l'Inde, puis du Raj britannique. Et les Français appelaient cette partie du monde les Indes. C'est au XVe siècle que les premiers contacts avec les empires occidentaux se font. Les Portugais arrivent les premiers, puis les explorateurs français, des corsaires et des aventuriers qui arment leurs navires pour atteindre les Indes et en rapporter des épices sans intermédiaire. Ils sont rejoints par les Néerlandais qui veulent aussi leur part, puis par les Anglais. Des combats entre commerciaux ont souvent lieu en mer et sur terre, sur le sol du Bengale, parfois entre des compagnies étrangères privées et des compagnies étrangères d'État, comme par exemple lors de la bataille de Plassey, où la compagnie britannique des Indes orientales, une compagnie commerciale privée, s'opposa à la compagnie française des Indes orientales, qui elle était une compagnie d'État. La bataille de Plassey est une bataille décisive dans l'histoire du Bangladesh. La bataille de Plassey. L'affaire débute en 1756. Cette année-là, dans l'Empire du Bengale, est nommé un nouveau nabab. Il succède à son grand-père, il a 23 ans. Un nabab, c'est le titre donné au plus haut responsable politique du territoire. Ce nabab est indépendant, même s'il relaie la parole de l'empereur le Grand Moghol. Quand il prend ses fonctions, les Britanniques sont en conflit avec les Français sur le territoire du Bengale. Et ce nabab n'a pas l'intention de les laisser faire n'importe quoi. Particulièrement concernant la ville de Calcutta, qui est alors sous son autorité. Bien que le grand Moghol ait cédé cette ville 80 ans auparavant à la Royal Navy, qui en a confié l'administration à la Compagnie britannique des Indes orientales, les Anglais ont des accords à respecter, comme ne pas fortifier Calcutta pour repousser les Français sans autorisation. Alors à son arrivée, le nouveau nabab lance un ultimatum. Il demande aux Anglais de cesser immédiatement les travaux de fortification.
Les Anglais, cessez immédiatement vos travaux!
Mais étant donné que sa demande reste sans effet, le nabab mobilise ses troupes et se lance à l'assaut de la ville. Et il remporte la victoire. Sauf qu'en réponse, la compagnie britannique des Indes orientales décide de répliquer et envoie des bataillons en provenance de Madras à quelques centaines de kilomètres de là. Et 1 an et 3 jours plus tard, les bataillons débarquent.
c'est la bataille de Plassey, le 23 juin 1757. La bataille ne dure que quelques heures, l'armée du Bengale est défaite.
Il y a eu trahison ! Il y a eu trahison !
Oui, il y a eu trahison. Le Nabab a été trahi par son oncle, Mir Jafar, qui avait acheté les soldats bengalais pour qu'ils ne se battent pas contre les soldats anglais, permettant aux soldats de la compagnie anglaise de remporter la bataille malgré le soutien de l'artillerie de la compagnie française des Indes orientales aux troupes du Nabab. Le Nabab dut prendre la fuite. Et comme convenu avec les Anglais, c'est son oncle, Mir Jafar, qui devient le nouvel administrateur, le nouveau Nabab de l'Empire du Bengale. À partir de la bataille de Plassey, de terribles famines commencèrent, comme dans tout le sous-continent indien pendant la période coloniale. L'armée de la compagnie britannique avança et annexa sur son passage tous les territoires s'étendant vers le nord et vers l'ouest. Bientôt, les Anglais se mirent à développer des écoles et des administrations pour permettre ce qu'ils nommaient l'évangélisation, ce qui consistait à diffuser des valeurs chrétiennes auprès des populations de confession hindoue ou musulmane. L'anglais fut déclaré langue officielle et on tenta d'empêcher la diffusion des autres cultures. Les populations locales fournissaient aux Européens des épices, des ballots de coton, du thé. Les spécialités de l'Empire du Bengale étaient les étoffes précieuses, la soie et la mousseline de Dhaka en référence à la ville, et les pigments de couleur pour la coloration des tissus. Le pigment indigo était très prisé. Pendant cette période coloniale, la compagnie favorisa aussi particulièrement sur les terres du Bengale la culture de l'opium, parfois au détriment des terres servant à se nourrir. Un jour, vers 1857, alors qu'au Bengale l'ambiance était plutôt détendue, des révoltes commencèrent dans les provinces voisines tenues par la compagnie. Ces soulèvements sont connus comme la révolte des Sipahis. Les Sipahis étaient des mercenaires indiens qui travaillaient pour les Anglais. Et le 10 mai 1857, les Sipahis se retournèrent contre leurs employeurs, les Anglais. Cette mutinerie fut suivie par de grands mouvements populaires qui s'égrenèrent du nord jusqu'au centre des Indes en quelques années. La question religieuse était un problème. Les pratiques des uns n'étaient pas les pratiques des autres. La justice était inégale selon qu'on soit anglais, hindou ou musulman. Alors les combats s'entamèrent. Et même un mouvement réclamant l'indépendance des Indes, qui comprenait alors le Bengale. Les révoltes étaient telles que la compagnie anglaise des Indes se sentit menacée. Elle était en train de perdre le contrôle. Alors la couronne britannique intervint et décida de dissoudre la compagnie britannique des Indes orientales et de s'emparer de toutes ses possessions.
Ce sera dorénavant directement la couronne britannique qui s'occupera de régir les Indes.
À partir de ce moment-là, tous les territoires, de l'Iran actuel aux frontières de la Thaïlande actuelle, incluant donc notre actuel Bangladesh, furent rebaptisés le Raj britannique. Et tout fut réorganisé, l'armée, les systèmes financiers, les systèmes administratifs. Et malgré les famines et malgré les révoltes durement réprimées, le 1er mai 1876, la reine Victoria fut proclamée impératrice des Indes et l'ensemble des habitants, bengalais inclus, devinrent des sujets de l'Empire britannique. Et les Bengalais n'étaient pas au bout de leur peine. En 1905, l'Empire du Bengale fut découpé en deux. On appela ça la partition du Bengale. Soi-disant pour une raison administrative, elle était dans les faits principalement religieuse. Les hindous furent placés d'un côté, Bengale occidental, et les musulmans de l'autre côté, au Bengale oriental. Mais cette partition, faite à la demande des élites musulmanes du Bengale qui cherchaient à obtenir les faveurs de la couronne, ne fut pas actée longtemps. Posant beaucoup de problèmes, elle fut abrogée rapidement. Mais revenons légèrement en arrière et intéressons-nous quelques instants à l'Inde. Car à cette époque, le destin de l'Inde et du futur Bangladesh sont intimement liés. C'est en partie grâce au mouvement en faveur de l'indépendance de l'Inde et du Congrès national indien que le Raj britannique fut démantelé et que les territoires le constituant, et notamment le Bangladesh, se dirigèrent vers l'indépendance.
Gandhi et la course de l'Inde vers l'indépendance en 3 minutes.
En 1888, un Indien part faire ses études à Londres pour devenir avocat. C'est un sujet de la couronne britannique, il s'appelle Gandhi. Peu de temps après ses études, il se rend en Afrique pour exercer sa profession d'avocat. Là-bas, il se sensibilise aux questions raciales, se rendant compte des différences imposées en Afrique du Sud par la couronne britannique selon que l'on soit blanc, noir, indien ou métisse. Et à partir de là, Gandhi mènera toute sa vie des actions en faveur de l'égalité pour les peuples. Mais pas n'importe quelles actions, des actions non violentes, voire des actions pour favoriser l'entraide entre les différentes communautés. communauté en s'appuyant sur le respect des lois et leur amélioration. Quand il retourne au Raj britannique en 1915, il s'engage tout de suite dans la politique de son pays et notamment entra au Congrès national indien, une institution créée par les Britanniques pour permettre une meilleure communication entre les sujets indiens et la couronne. Rapidement, les propos de Gandhi en faveur de l'égalité sociale et de la non-violence sont entendus et soutenus. Et de nombreux mouvements de désobéissance civile pacifique se développent. Des boycotts, des grèves de la faim, des jeûnes, le non-paiement des impôts. Certains demandèrent le statut de protectorat et dans les rues résonna encore une fois le mot « indépendance ». Mauvaise nouvelle, arriva la Seconde Guerre mondiale. La couronne d'Angleterre demanda aux habitants du Raj britannique de participer à l'effort de guerre. Après de nombreuses délibérations, le Congrès national indien répondit à la couronne et c'est Gandhi qui porta le message
« L'Inde ne peut pas participer à une guerre ayant pour but la liberté démocratique » alors que cette liberté est refusée à l'Inde elle-même.
Et ils allèrent plus loin. Ils demandèrent aux Britanniques de quitter l'Inde. Gandhi, pendant l'été 1942, appela à la grève générale. Il fut aussitôt emprisonné, lui et d'autres membres du Congrès national indien. En 1944, la situation changea brusquement. Gandhi est en prison, il a des problèmes de santé, les Anglais savaient que s'il mourait, il y aurait un soulèvement général, alors ils choisirent de le libérer. Et à la fin de la guerre, l'Empire britannique céda enfin et annonça le transfert à venir du pouvoir aux mains des habitants des territoires. Pour le Bengale, la période de guerre ne fut pas facile. L'Empire japonais arriva par l'Est pour affronter les Anglais, prirent la Birmanie et se positionnèrent aux portes du Bengale. Il y eut beaucoup de famine. Alors heureusement qu'arriva le mouvement d'indépendance. Rapidement, une ligue en faveur des musulmans prit part aux négociations et réapparut l'idée de créer un État pour les musulmans. Alors en s'inspirant de la partition du Bengale, le Raj britannique fut divisé en deux. L'Inde d'un côté, avec la religion hindoue, sa constitution entra en vigueur en 1950, et le Pakistan de l'autre, de confession musulmane, qui lui signera sa constitution en 1956, incluant le Bengale, qui devint le Pakistan oriental. C'est à ce moment-là que la Ligue Awami apparut pour défendre les intérêts des musulmans du Bengale, qui demandaient eux aussi l'indépendance. Malheureusement, patatras, coup d'État au Pakistan. Le chef militaire renversa le président et une dictature militaire fut instaurée pendant 15 longues années. De nombreuses crises et de nombreuses révoltes eurent lieu avant que le pouvoir accepte enfin d'organiser les premières élections législatives au Pakistan en 1970. À l'issue du vote, la volonté des populations était très claire. Ils voulaient la démocratie. Malheureusement, le pouvoir militaire refusa les résultats. Des batailles judiciaires et des conflits armés se succédèrent l'année qui suivit et des alliances se mirent en place. L'armée indienne vint en soutien de la guérilla et des troupes du Bengale. Et ensemble, en 1971, ils remportèrent l'indépendance. Le Bengale devint officiellement le Bangladesh et Dhaka, la capitale du Bangladesh. Aujourd'hui, le Bangladesh est une démocratie parlementaire, ayant l'islam comme religion d'État. Les élections sont ouvertes à tout citoyen au-dessus de 18 ans et se tiennent tous les 5 ans pour renouveler le parlement monocaméral de 300 sièges, dont 50 sièges sont réservés aux femmes. Les sports les plus populaires sont le football et le cricket. Ce pays, avec 147 000 km² et ses 162 millions d'habitants, est l'un des pays qui connaît l'une des plus fortes densités de population, c'est-à-dire où réside le plus grand nombre d'habitants au km². 1102 habitants au km², 10 fois plus qu'en France. Pourtant, 80% des Bangladais vivent en zone rurale, mais 75% des terres servent aux cultures. Un foyer sur deux travaille dans la culture du riz, dont le Bangladesh est 4e exportateur mondial. La majorité de ses richesses repose sur son industrie textile. Le Bangladesh est depuis longtemps au niveau international dans les 5 premiers exportateurs de vêtements aux côtés de la Chine, de l'Inde, du Vietnam et plus récemment aux côtés de l'Allemagne. De nombreuses multinationales occidentales font appel à la main-d'œuvre du Bangladesh, même s'ils savent que celle-ci connaît de très mauvaises conditions de travail. Pression d'État, réponse violente aux manifestations pacifiques, difficulté à développer des syndicats, police industrielle. Mais c'est aussi l'une des moins chères du monde. 30 euros par mois contre 150 ou 200 euros en Chine. Alors une pensée aux Bangladais et espérons que tout ira pour le mieux pour eux dans les prochaines années. L'hymne national que nous allons maintenant entendre a été adopté lors de l'indépendance en 1971. La musique et les paroles ont été composées par Rabindranath Tagore, également auteur de l'hymne indien. Son titre, Amar Shonar Bangla, mon Bengale doré.
Amar Shonar Bangla, ami tumai bhalobashi, chirodin tomar akash, chirodin tomar akash. তোমায় ভালোবাসি।